Alors avant de commencer, je vais faire une petite présentation de ce site internet qui s'appelle www.jptoussaint.com, qui est un site auquel j'ai travaillé avec un informaticien belge qui s'appelle Patrick Soquet. Ça fait plusieurs années que je réfléchis aux possibilités d'Internet et à ce que je pourrais faire lié à Internet. En réalité, grâce au producteur de La Patinoire, on était pionniers dans la mesure où le film La Patinoire que vous avez vu a été le premier ou un des premiers films dont le tournage était intégralement visible sur Internet 24 heures sur 24. En fait, Pascal Judé-Lévis a eu l'idée de créer un site. Le tournage de La Patinoire, en fait, remonte à un certain temps. Déjà, c'est 97. Et on a tourné à l'été 97. Et le producteur a donc engagé une équipe pour le site Internet. Et cette équipe a donc mis en place trois webcams en permanence dans le lieu où on a tourné, c'est-à-dire la patinoire de Franconville, près de Paris. Et ces webcams tournaient en permanence 24 heures sur 24. Et donc, sur le principe d'Internet, on se connectait et on pouvait voir une image live, en direct, jour et nuit, de la patinoire de Franconville. La nuit, il ne se passait pas grand-chose. Le jour, on était là, on travaillait. Et la seule chose... Je dois avouer que je n'avais pas pris conscience de l'intérêt. Mais je ne m'étais évidemment pas du tout opposé à ce principe-là. Je ne voyais pas en quoi c'était particulièrement intéressant, mais c'était plus l'idée de Pascal Judé-Lévis. Simplement, moi, je faisais mon film, et j'ai simplement dit, je ne veux pas de son, et je ne veux pas que cette caméra se rapproche de mon... et nous écoute et nous épie. Moi, je travaille, je n'ai pas envie qu'on... vous avez vu le film, à un moment,
voilà, c'est ça.
Le mec, on le jette dans les buts. Bon, donc, ça, c'était... Donc, ce site qui s'appelait lapatinoire.com, qui a disparu, a été alimenté. Il y avait des petits clips qui étaient en permanence mis en ligne. Il y avait des biographies des acteurs, du réalisateur, il y avait le scénario, il y avait les feuilles de service disponibles. Donc, il y avait vraiment, même si je n'étais pas complètement à l'origine, c'était quand même lié à ce que je faisais. Ensuite, en 2000, il y a un professeur aux États-Unis, Alain-Philippe Durand, qui m'a proposé de participer à un séminaire virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des étudiants à Rhode Island qui travaillaient sur la salle de bain et sur la patinoire. Et plutôt que j'aille à Rhode Island, j'avais accepté pendant une semaine de répondre par Internet aux questions des étudiants. Et donc, je participais au séminaire, mais de façon virtuelle. Et tout ça, évidemment, a été conservé aussi. Donc ça, c'est une deuxième expérience. Après, vu l'essor d'Internet qui a largement dépassé tout ce qu'on peut imaginer, je me suis de plus en plus dit... Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec Internet? Et le premier élément de réflexion, c'était que, en réalité, les éléments sur lesquels je travaille, l'écrit, le cinéma et la photo, sont en fait le langage Internet. C'est les éléments de base. J'ai finalement une matière énorme, texte, photo, image animée. Et que finalement, il n'y a pas tellement d'écrivains ou cinéastes ou contemporains comme moi, qui ont un tel corpus de matière. Alors après, il fallait trouver la forme. Parce que finalement, ce qui m'intéresse quand je travaille, que ce soit en littérature ou au cinéma, c'est la forme. Et donc même sur Internet, ça ne m'intéressait pas de faire un site ou de montrer des photos de moi quand j'étais petit, enfin, ou de dire « je suis à Genève aujourd'hui ». Et bon, c'est Facebook, ça. Je ne voulais pas faire ça. Écrire, ça me fatigue énormément, donc je n'ai pas envie d'écrire pour un blog et tout ça, déjà... j'écris mes livres, ça me suffit largement, c'est tellement difficile à faire, donc j'avais pas envie d'écrire non plus. Mais par contre, je me suis dit que j'avais quand même, enfin, il fallait que je trouve cette forme. Et finalement, c'est la rencontre avec Patrick Soquet qui m'a permis de trouver cette forme. Alors, une idée de faire appel à des correspondants, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai travaillé essentiellement sur la page France. Paris, avec un apport qui me semble unique, c'est de mettre en ligne les brouillons de mes livres, en tout cas des trois derniers. Alors, c'est pas un accès complet libre à mon ordinateur, mais c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cliquez sur La vérité sur Marie, vous avez finalement des états du manuscrit, vous avez des variantes, vous avez des brouillons, il y a vraiment, si on veut, comme une métaphore de l'accès direct à mon ordinateur. Comment j'ai travaillé ? Je dis que ce n'est pas exactement ça, parce que c'est quand même aussi une sorte de travail d'édition, c'est que j'ai quand même décidé de quoi mettre en ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement brut. D'ailleurs, brut, ce serait trop de matière. Donc, c'est même un peu classé, édité, légèrement. L'idée, donc, c'était de faire appel à des correspondants et donc de confier, par exemple, pour les États-Unis, je l'ai confié à Alain-Philippe Durand, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était ce professeur à Rhode Island, qui était responsable de la page États-Unis. Et lui, tout de suite, il s'est dit, je vais faire appel à mes étudiants. Donc, il a d'autres étudiants maintenant, etc. Et donc, ces étudiants, il y en a trois qui ont été stagiaires et dont le travail était, finalement, de s'occuper des pages États-Unis de ce site, donc de récolter, recueillir tout ce qui concerne mon travail dans cette page États-Unis, chaque sous-site étant dans sa propre langue. Donc, par exemple, le sous-site japonais, qui est un étudiant japonais que m'a recommandé mon traducteur, Nozaki, m'a recommandé un étudiant qui habite à Paris maintenant, mais la page Japon est entièrement en japonais. Et donc, est très riche, c'est une des plus complètes. La page canton, est en chinois, etc. Voilà, donc, je pense que c'est une introduction déjà bien trop longue. Et je vous invite à vous connecter.
Donc, Jean-Philippe Toussaint, vous êtes entré en littérature en 85 avec La Salle de Bain, un livre qui a d'abord été refusé par tous et finalement repêché sur la table d'Alain Robbe-Grillet par Jérôme Lindon. Robbe-Grillet était absent, non ? Il était aux États-Unis, je crois. Depuis, vous êtes resté fidèle à Jérôme Lindon et vous avez écrit un texte en hommage à votre éditeur après son décès, le jour où j'ai rencontré Jérôme Lindon. Maintenant, vous êtes toujours chez Minuit, édition dirigée par la fille de Lindon, Irène Lindon. Vos premiers titres sont en forme de substantifs, la salle de bain, monsieur, l'appareil photo, la réticence, la télévision. Ces romans sont empreints d'une ironie que je qualifierais de valzérienne. Je ne sais pas si c'est un terme si Valzer vous parle. Moi, je trouve que c'est assez frappant. Et notamment des romans qui sont marqués par des remarques directement adressées au lecteur, comme des espèces d'interpellations qui créent une connivence entre le lecteur et le narrateur. Dans Monsieur, écrit à la troisième personne, l'ironie prend Monsieur pour objet. Dans l'appareil photo, écrit à la première personne, l'ironie établit donc cette fameuse connivence avec le lecteur par les interpellations, par exemple, quelle journée en perspective, là aussi, doux seigneur, ou mais nous dûmes libérer la chambre à midi, voyez, enfin, ce genre de choses. Et en fait, ces romans déclinent, à mon avis, une posture au monde à la fois ironique et détachée, la tentative pour le narrateur ou le héros de se soustraire à tout ce qui le heurte, une posture ironique mais aussi empreinte de mélancolie. Le narrateur tente de s'isoler dans une seule pensée pour tenter de se soustraire au temps qui passe. On pourrait presque dire que ces romans se déroulent dans l'espace mental du narrateur. Ça, c'est une petite allusion parce qu'on est en Suisse, mais enfin, en 2001, Jacques Chesset a repris votre titre, Monsieur. Mais autant votre monsieur est désincarné et anonyme, autant celui de Chesset est incarné et c'est lui-même. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman de Chesset. En 2002, vous publiez « Faire l'amour », qui marque une rupture ou une évolution dans votre œuvre, déjà indiquée par le titre, qui tranche donc sur les titres en forme de substantif. Dans ce roman, on sort du pur espace mental du narrateur, on plonge dans les extérieurs, pour reprendre un terme cinématographique. Le Japon joue un rôle non négligeable dans la narration, et la narration elle-même se développe, se complexifie, autant que les personnages. Le narrateur lui-même est un personnage qui lui aussi prend de l'ampleur et que l'on retrouvera dans vos romans successifs, ainsi que celui de Marie, puisque Faire l'amour est le premier roman d'une trilogie, suivra Faire l'amour, Fuir et La vérité sur Marie. Cette trilogie, je la qualifierais brièvement d'amoureuse. C'est une trilogie amoureuse, mais qui commence par la fin, qui commence par la rupture entre le narrateur et Marie. Et tout au long des trois romans, Marie et le narrateur n'en finissent pas de se quitter pour se retrouver. Le narrateur a quelque chose de la posture des précédents narrateurs, même s'il est impliqué dans sa relation avec Marie. Il n'en finit pourtant pas de continuer à se dérober, de fuir, pour citer un titre, tout en restant à sa façon présent, infiniment présent dans la vie de Marie. Le troisième roman nous apporte prétendument la vérité sur Marie. Ce roman vous a valu l'année dernière le prix décembre, Fuir ayant eu le prix Médicis 2005. Je dis prétendument parce qu'on attend une espèce de scoop, vérité sur Marie, mais évidemment que le scoop, il n'arrive pas vraiment. J'ajoute, parce que ce n'est pas si courant pour un auteur francophone, que vous êtes publié en chinois et en japonais, plus que publié même, car le succès de La Salle de Bain se chiffre à plus de 100 000 exemplaires au Japon, peut-être plus maintenant, et seul L'Amant de Duras a connu un tel succès dans ce pays. Voilà, maintenant j'invite Jean-Philippe Toussaint à vous lire quelques passages de La Vérité sur Marie.
Jean-Christophe de G était ressorti du hangar et attendait l'arrivée de la salle de voyage du cheval pour procéder à son embarquement. Le chauffeur du van avait déjà ouvert la porte du fourgon et avait descendu le pont métallique sous la pluie, tandis que les hommes de main se positionnaient autour des entrées du van. Deux d'entre eux avaient des vagues allures de yakuza ou de petites frappes japonaises, avec des blousons noirs cintrés, garnis de doublures orange. Le troisième, très gros, un corps énorme, entièrement chauve, la nuque épaisse, la peau comme de la corne de buffle, était peut-être tout aussi japonais, mais n'aurait fait dissonance nulle part, ni à Moscou ni à New York, avec son look de garde du corps de concert rock et ses minuscules yeux bridés internationaux, passe-partout dans le monde. Apparemment, il n'avait pas l'autorisation de toucher le cheval. Ils étaient simplement affectés à sa sécurité, devant empêcher quiconque d'en approcher. Ils n'apportèrent d'ailleurs aucune aide à quiconque, se contentant d'imposer leur présence dissuasive à la porte du fourgon, en veillant ostensiblement sur les alentours. On attendait toujours l'arrivée de la salle de voyage du cheval, et deux des quatre Japonais avaient rejoint le pur sang à l'intérieur du van pour essayer de l'apaiser, tâcher de le calmer, lui caressant doucement l'encolure pour le laisser s'accoutumer à leur présence. Car depuis le limogeage de l'entraîneur de Zahir le matin même, non seulement de son entraîneur, mais de tout son entourage, y compris son premier garçon de voyage, ce qui rétrospectivement avait été une erreur, même Jean-Christophe de G avait dû en convenir, le pur sang n'avait plus de lade. Il avait perdu son lade attitré, le lade de confiance qui l'accompagnait à l'étranger depuis sa naissance, celui qui avait toujours voyagé avec lui, qui le nourrissait pendant les déplacements et le conduisait aux rondes présentations les jours de course, celui, le seul, auquel il était habitué. La salle de voyage du cheval fit alors son apparition sur le parking, trônant sur une remorque plate, telle une statue de procession, tractée par un petit véhicule électrique qui l'emportait dans son sillage. Le véhicule tracteur contourna les différentes voitures garées le long des entrepôts et alla s'immobiliser devant le minibus à l'entrée du hangar. La manœuvre était supervisée par le chef d'escale de la Lufthansa, un talkie-walkie à la main, qui portait un immense ciré noir qui flottait sous la pluie autour de son costume. Deux techniciens descendirent de la cabine du véhicule tracteur et se hissèrent sur la remorque pour décadenasser les ouvertures et mettre en place un plan incliné pour permettre au cheval d'accéder à la salle de voyage, sorte de caisson étanche, métallique et strié, sur lequel étaient plaqués quelques résidus d'autocollants jaune-orangé aux couleurs de la Lufthansa. Marie s'était mise à l'abri de la pluie dans le hangar et observait les opérations à distance. Toutes les portes étaient ouvertes à présent, mais le cheval restait toujours invisible dans les profondeurs du vent, sur lequel tous les regards étaient fixés. De la présence du pur sang ne témoignaient encore que de brefs hennissements étouffés qui provenaient de l'intérieur du fourgon et une odeur de cheval, une puissante odeur de cheval, de foin et de crottin qui allait se mêler à l'odeur de la pluie et au relent de kérosène. Alors, lentement, apparut la croupe du pur sang, sa croupe noire, luisante, rebondie, à reculons, les sabots arrière cherchant leurs appuis sur le pont, battant bruyamment sur le métal et trépignant sur place, très nerveux, faisant un écart sur le côté et repartant en avant. Il ne portait pour tout harnachement qu'un licol et une longe, une courte couverture en luxueux velours pourpre sur le dos, et les membres finement enveloppés de bandages protecteurs et de guêtres de transport fermées par des velcros, les glomes et les tendons momifiés de bandelettes pour éviter les coups ou les blessures. C'était 500 kilos de nervosité, d'irritabilité et de fureur qui venait d'apparaître dans la nuit. Le pelage noir illustré, la musculature apparente, il descendait à reculons, les deux Japonais en blazer bleu marine collés contre son corps à la hauteur de l'épaule pour essayer de le contenir, s'agrippant à la longe, le tirant et le retenant. Le cheval ne se laissait pas faire, rétif, tournait la tête pour se dégager, s'ébrouait, se débattait. Des frémissements spontanés couraient le long de sa crinière, comme des ondes visibles de tension et de nervosité. Sa puissance physique était impressionnante. Il émanait de lui une énergie animale électrique. Les deux Japonais semblaient dépassés par les événements. Ils perdaient pied, leurs blazers défaits et les cravates en bataille. Ils lançaient de vaines injonctions dans le vide pour qu'on leur vînt en aide. On sentait leur émotivité, leurs mains et leurs visages tremblaient. Immobile sur le pont, le pur sang ne bougeait plus, n'avançait plus, ne reculait plus, malgré les efforts des deux Japonais qui tiraient sur la longe sans parvenir à le faire bouger. Le chef d'escale de Lufthansa, son talkie-walkie à la main, s'était approché du van et personne ne bougeait plus. Ni le cheval, arrêté à mi-pont, immobile, furieux, impérial, ni les spectateurs, fascinés par la force brute de cet étalon immobile, ses muscles longs et puissants, saillants, tendus, qui contrastaient avec le tracé gracieux des pattes, la finesse des paturons, minces, étroits, délicats comme des poignets de femme. Bon, alors ça, c'est la présentation du cheval, Zahir, qui en fait a un rôle très important dans le livre. Et comme vous le voyez, son entrée dans le livre est extrêmement préparée. C'est-à-dire qu'en fait, il est. J'ai lu la fin du passage, mais pendant tout un moment, il est attendu, il est invisible. Et c'est, je pense, je dirais, ça a été une partie de mon travail de faire. De rendre le plus fort possible son entrée dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit d'ailleurs, quel que soit que ce soit un personnage, en l'occurrence c'est un cheval, mais ça pourrait être un personnage féminin, ça pourrait être un personnage masculin, il y a, je dirais, toute une stratégie littéraire et romanesque pour rendre son arrivée la plus puissante, performante possible. C'est-à-dire que je savais, en commençant le livre depuis longtemps, qu'il y aurait un cheval. Et j'aurais pu commencer, notamment ce cheval va participer à une course. Il y a tout un passage où le cheval participe à un grand prix. Mais je me suis bien, à dessein, j'ai placé le passage de la course plus tard. Il m'importait qu'il y ait toute cette attente. Donc toute cette stratégie du van qu'on voit, où on devine sa présence, où en fait il se fait attendre. Et tout ça, c'est tout un... Finalement, c'est ça la littérature pour moi. C'est tous ces enjeux-là, plutôt que simplement d'écrire un cheval dans l'hippodrome. Ce que j'ai fait finalement plus tard dans le livre, il y a toute une scène où il y a le rond de présentation, il est sur l'hippodrome, etc. Pour moi, c'était très important de le présenter de cette façon-là, finalement, de faire attendre. Et je crois que c'est... On est là au cœur de la littérature, finalement. La façon dont j'ai consciemment retardé, travaillé, caché cette entrée en matière ou entrée dans le livre du cheval est à mon avis, très représentative d'un enjeu. Bien sûr, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, bon, ce soir, j'ai pensé à ça. C'est la première fois que je le lis, d'ailleurs, c'est comme ça. Enfin, non, je l'avais déjà lu, mais comme ça... Et faire cette explication-là, c'est vrai que... je pourrais, à chaque élément du livre, finalement, il y a toute une réflexion. Et cette réflexion, pour moi, c'est important qu'elle soit et qu'elle reste sous-jacente. C'est-à-dire, en fait, qu'il y ait plein de choses et plein de réflexions, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui importe. On peut dire, c'est super, toute sa réflexion, tout son dispositif est très bien, mais le livre n'est pas terrible. Bon, c'est le contraire. Il faut que le livre soit... vraiment fascinant, et qu'après on se dit, mais comment ça, d'où ça vient? Et après, je dis, bah écoutez, moi je peux vous expliquer deux trois choses, et ça peut être intéressant de voir comment je procède parce que finalement il y a des tas de choses qui sont très calculées. Et j'aime cette idée que la littérature, Il y a des tas de choses qui doivent être instinctives. Il y a des tas de moments où je suis à l'écoute et je ne sais pas où je vais. Je suis très à l'écoute de ce que je peux faire. Mais il y a des tas de choses qui sont très délibérées, très calculées. Et c'est un des aspects de la littérature qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire de ménager des effets et des effets de surprise, par exemple.
Et de suspense.
Et de suspense. Et finalement, ce sont des choses qui demandent, pour lesquelles il y a une préméditation. Et c'est pas si fréquent, finalement. Nabokov est un maître dans ce registre-là. Nabokov est un auteur qui prépare comme ça des prémédite et donc a des effets de surprise, a des effets comme ça. Beaucoup d'auteurs cherchent plutôt quelque chose qui soit instinctif, qui viendrait, et vont pas aller préparer quelque chose. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que j'essaye... finalement, il y a deux... Je parlais de Nabokov, mais disons que les deux maîtres, les deux grands maîtres qui donnent un modèle, finalement, comment écrire. Il y a Flaubert. Alors, Flaubert, c'est un grand maître qui dit le travail. Alors là, de ce point de vue-là, on peut ranger Nabokov là, ici, c'est-à-dire il faut reprendre la phrase, la même phrase, 250 fois. Bon, et c'est pour moi, c'est un vrai modèle. Et il m'arrive, dans ce que j'ai lu, il y a des choses que j'ai trouvées au bout de 7 ou 8 relectures. Il y a du vocabulaire. Donc, par exemple, la façon de ce que le cheval porte sur lui, je ne l'ai pas trouvé tout seul, je ne connais pas tout le vocabulaire. En plus, je ne connais rien en chevaux. Mais bon, tout ça, j'ai dû aller le chercher. Et puis après, il faut le rendre le plus souple possible. Il faut que tout ça passe comme si c'était juste, je l'avais aperçu comme ça. Et donc, tout ça, c'est dans cette ligne de Flaubert, travailler, toujours travailler, travailler toujours plus. Et puis, l'autre grand maître, et qui induit un autre modèle d'écriture, c'est Kafka. Kafka avec tous les soirs se disant « je vais essayer d'écrire ». Et presque tous les soirs en disant « rien ». Ça n'a pas marché. Et puis parfois, il y a cet élan qui peut survenir et il lui est arrivé d'écrire en une nuit tel ou tel texte. Donc finalement, cette espèce d'élan qui emporte tout. Et donc... c'est vrai que moi, j'essaye de concilier ces deux choses-là. C'est-à-dire que d'écrire, de trouver des moments où je m'isole et j'essaye, comme Kafka, de dire « on y va » et que quelque chose qui emporte tout. Et après, tout ce que j'ai écrit, je vais le reprendre comme Flaubert et reprendre chaque chose en me disant « mais ça pourrait être plus précis ou pas trop précis ». Enfin bon, après, tout reprendre. Je réfléchis sur précis. Précis, c'est aussi... C'est une chose très intéressante à propos de précis. Donc quand on écrit à toute vitesse comme Kafka, on trouve pas le mot le plus précis tout de suite. Donc après, on peut rechercher, on fait on recherche et on va trouver un mot plus précis. Mm-hmm. On peut tout nommer avec une très grande précision. Mm-hmm. Mais dès lors que si on nomme tout avec une très grande précision, on s'égare parce que finalement on perd, ça devient quelque chose de
technique.
De technique et de désincarner. Et donc, il faut trouver l'équilibre, justement, entre cet élan et cette précision. Et bon, ça, c'est beaucoup de travail. Alors, je lis encore un petit extrait.
Oui.
Debout.
D'accord.
Le livre s'appelle « La vérité sur Marie ». Je ne suis pas particulièrement content du titre.
On pourra en parler.
Voilà. Je trouve que Fuir, c'est un titre excellent.
Ouais, excellent.
Et Faire l'amour, c'est pas mal, non?
Ouais.
Bon, et puis les deux, vous voyez, j'allais faire l'amour, fuir, il y a comme du F là-dedans.
Ouais.
Donc je me suis dit, et je n'aurais pas un titre en F. Bon, j'ai cherché pendant un an et demi un titre. Je voulais la même force, j'ai vraiment cherché. Et La vérité sur Marie était mon titre...
De travail.
De travail, c'était mon... C'est mon tout-terrain, quoi, le truc. Ça marche. Chaque fois que j'essayais autre chose, ça ne marchait plus. Je me disais, bon, j'ai fait des tentatives. Au moins, celui-là, c'était solide. Il ne me dérangeait pas. Bon. Donc, mais je ne le trouve pas totalement convaincant. Mais quand même, après, on se dit, la vérité sur Marie, il y a quand même... Est-ce qu'il y a une réflexion sur la vérité? Et intuitivement, je me disais non. Il n'y a pas de réflexion sur la vérité. Or, si. Après, oui. Après, j'ai lu des tas de choses. Et donc, je vais vous lire deux passages où, finalement, le contenu du livre se rapporte au titre et que, finalement, il y a, à deux moments, une réflexion sur la vérité. Alors, le premier, c'est autour du personnage de Marie. Parfois, à partir d'un simple détail que Marie m'avait confié, qui lui avait échappé ou que j'avais surpris, je me laissais aller à échafauder des développements complets, déformant à l'occasion les faits, les transformant ou les exagérant, voire les dramatisant. Je pouvais me tromper sur les intentions de Jean-Christophe de G. Je pouvais douter de sa sincérité quand il affirmait avoir été abusé par un membre de son entourage. J'étais sans doute capable de prêter foi à des rumeurs malveillantes et à amplifier les soupçons qui le concernaient. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était impliqué personnellement dans l'affaire qui lui était reprochée, et j'ignore si les bruits de chantage dont il aurait été victime étaient fondés, mais Marie m'avait quand même confié un soir qu'elle avait eu le sentiment qu'il portait une arme dans les derniers jours de sa vie. Je me trompais peut-être parfois sur Jean-Christophe de G, mais jamais je ne me trompais sur Marie. Je savais en toutes circonstances comment Marie se comportait, je savais comment Marie réagissait, je connaissais Marie d'instinct, j'avais d'elle une connaissance infuse, un savoir inné, l'intelligence absolue. Je savais la vérité sur Marie. Bon, donc c'est vrai que ce passage-là, il y a, si on veut, une sorte de fantasme d'écrivain qui espérerait connaître mieux le personnage que lui-même. Enfin, et c'est vrai que moi, c'est une des choses qui m'intéressait beaucoup, par exemple en lisant Proust, en me disant, mais comment il sait ça, Proust? Enfin, comment il sait cette chose-là qui me concerne, moi? Comment sait-il ça, alors qu'il n'y a que moi qui sais ça? Voilà, c'est ça. Et lui, il sait ça. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, ça peut être un fantasme d'écrivain de dire, moi, je sais des choses sur vous que vous-même n'avez pas formulées, mais moi, je le sais. Et vous allez me lire et vous allez retrouver quelque chose que vous savez, mais qui n'était pas formulé. Donc ça, c'est un fantasme magnifique. Si on arrive à ça, si quand on lit quelqu'un, on se dit, mais comment comment sait-il ces choses-là? Je trouve que c'est magnifique si la littérature peut arriver là. Alors, l'autre passage sur la vérité...
Mais moi, en fait, oui, ma première question, elle portait exactement là-dessus.
D'accord. Ben, la réponse est faite. Mais... non, pas tout à fait.
Ouais, je ne sais pas, moi, j'avais une autre... Justement, je voulais citer ce passage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un dédoublement entre l'auteur et le narrateur. Le narrateur qui croit connaître la vérité sur Marie. Enfin, ça, c'est justement le fantasme de l'écrivain qui présente son auteur de cette façon-là. Et bien sûr que dans tout le livre, cette vérité-là nous échappe. Enfin, on n'arrive jamais à la vérité de Marie. Et puis je me demandais si c'était aussi pas à double niveau. C'est aussi une façon justement d'interroger le statut de la vérité romanesque. Enfin, c'est aussi cet enjeu-là.
Oui. Mais ça, le statut de la vérité romanesque, c'est un autre passage justement où je me pose la question, je m'interroge sur la place de la vérité romanesque par rapport à la vérité historique, finalement. La vérité historique, elle est d'une certaine façon, elle a existé, et donc la réflexion que je me fais comme écrivain, c'est que finalement on ne peut pas rendre la vérité historique avec les mots, en gros. On n'arrive pas. Mais par contre, on arrive à autre chose. Et donc, je vais lire le passage avant de le commenter. Je savais qu'il y avait sans doute une réalité objective des faits. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, dans l'appartement de la rue de Lavrière. Mais que cette réalité me resterait toujours étrangère. Je pourrais seulement tourner autour, l'aborder sous différents angles, la contourner et revenir à l'assaut, mais je buterai toujours dessus. Comme si ce qui s'était réellement passé cette nuit-là m'était par essence inatteignable, hors de portée de mon imagination et irréductible au langage. J'aurais beau reconstruire cette nuit en image mentale qui aurait la précision du rêve, j'aurais beau l'ensevelir de mots qui auraient une puissance d'évocation diabolique, je savais que je n'atteindrais jamais ce qui avait été pendant quelques instants la vie même. Mais il m'a paru alors que je pourrais peut-être atteindre une vérité nouvelle qui s'inspirerait de ce qui avait été la vie et la transcenderait sans se soucier de vraisemblance ou de véracité et ne viserait qu'à la quintessence du réel, sa moelle sensible, vivante et sensuelle, une vérité proche de l'invention ou jumelle du mensonge, la vérité idéale. Et donc, cette vérité idéale est évidemment la vérité artistique, la vérité romanesque, qui à la fois, il y a un constat d'impuissance, c'est-à-dire que la littérature ou l'écrivain ne peut pas restituer, voilà, c'est ça, restituer ce que la vie a été à un moment. D'ailleurs, l'historien, je ne suis pas sûr qu'il y arrive non plus. Mais bon, la vie a été. Les mots ne peuvent pas restituer et rendre cette vérité historique. Mais cela dit, bon, grâce à la forme artistique, grâce à l'art, on peut transcender cela pour arriver à une autre vérité qui est une vérité poétique, une vérité romanesque, qui finalement n'a pas la valeur de la vérité historique, mais qui la transcende et qui finalement la dépasse. C'est pour ça que les artistes s'en sortent.
D'ailleurs, vous dites, c'est quand elle est à la fois vraie et fausse que la littérature me paraît la plus intéressante.
Alors, c'est certain que l'ambiguïté, l'ambivalence, sont une qualité cardinale de la littérature. Et c'est vrai que l'ambiguïté, l'ambivalence, c'est pas sûr qu'en sciences humaines, c'est pas sûr qu'en sciences exactes, en physique, si c'est très ambigu, ce soit terrible, ou en politique, tout ça. Par contre, en littérature, je pense qu'il n'y a pas de très grand livre s'il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette possibilité. La littérature permet d'affirmer, de mettre ensemble des opposés complets. Et ça, c'est une vraie richesse, parce que c'est une richesse dialectique. Et donc, en littérature, ça peut être à la fois noir et blanc. Alors que, dans plein d'autres domaines de la vie, on va chercher une moyenne et on va avoir du gris. Or, c'est mieux d'avoir du vrai noir, du vrai blanc et ensemble. Et donc, je pense même que toutes les grandes réussites poétiques sont un peu oxymoriques, à mon avis. Les grandes images poétiques sont oxymoriques. Et donc, les grands personnages de la littérature sont ambigus.
Autrement, on est dans une littérature militante, souvent. Enfin, oui. On peut tomber là-dedans, on peut... Non, mais ça me fait penser à l'expérience physique du chat que vous citez, oui, dans Monsieur. Oui. Où, selon cette expérience physique, le chat n'est ni mort ni vivant.
Oui.
Je pense que vous citez ça aussi, un peu dans cette idée. Enfin,
il y a longtemps.
Cet état...
Il y a longtemps. Le livre, l'expérience est encore plus lointaine.
Vous connaissez cette expérience ?
Schrödinger.
Ouais.
Oui, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est la mécanique quantique qui dit... Enfin, on va faire de la science, mais que... Le chat n'est ni mort ni vivant, il est dans les limbes, et donc en fait, selon l'état d'observation, il peut être ou l'un ou l'autre. Enfin bon, et la science, la mécanique quantique pourrait laisser croire qu'il y ait cette ambiguïté physique. Enfin, ça, c'est assez vertigineux hein, quand on y réfléchit. Qu'en science, justement, normalement, on est au point A ou au point B. Or, la science pourrait dire qu'on n'est ni au point A ni au point B, on est dans les limbes, et selon l'observation, on est parfois au point A, parfois au point B.
Je me permets de vous couper parce que vous parlez d'ambiguïté. Effectivement, sur le titre. J'ai écrit, est-ce qu'il n'y avait pas une ambiguïté? Parce que moi, je croyais la vérité sur Marie, c'était sur la Vierge Marie. Sûrement, quelqu'un d'autre vous a déjà posé la question. Pour moi, c'était ça.
Bah, c'est sûr que la Vierge Marie, elle a une sorte de droit moral sur le prénom. Et bon, moi, ça ne m'a pas beaucoup... je ne me suis pas interrogé énormément là-dessus. Mais c'est vrai que ce prénom, je l'ai choisi parce que c'était une sorte de prénom universel. Et donc, de ce point de vue-là, c'est comme la Vierge Marie, il y a cette universalité. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a très peu... Mais c'est vrai que c'est comme des coïncidences, parce que le personnage s'appelle Jean-Christophe de G. Alors, l'abréviation, c'est JC. Alors, JC et Marie, ça fait très... Mais ça, c'est un hasard. Encore que, si vous voulez, j'ai un truc très ambigu de ce point de vue-là, pour répondre à votre question, très biblique. Il y a quelque chose qui est quand même... On se demande, l'auteur...
veut bien en venir.
Ben oui, franchement. Très mystérieux. Parce que il y a une sorte d'impertinence. Bon, le personnage s'appelle tout au long du livre Jean-Christophe de G. Et en réalité, c'est comme ça que le narrateur l'appelle. Le narrateur appelle le personnage Jean-Christophe de G, mais en fait, il s'appelle Jean-Baptiste.
Saint Jean-Baptiste.
En plus, alors, donc on a JC, Jean-Baptiste et Marie. Bon, vous voyez le.
Ils sont tous là. Hein.
Madame a raison. C'est très ambigu. Alors. Justement, je voulais vous citer quand même cette référence biblique. Il y a une référence biblique, quand même, c'est très net. Voilà. Mais justement, je vais vous... En vérité, je m'étais mépris dès le début sur Jean-Christophe de G. D'abord, je n'ai cessé de l'appeler Jean-Christophe, alors qu'il s'appelle Jean-Baptiste. Je me soupçonne même de m'être trompé volontairement sur ce point, pour ne pas me priver du plaisir de déformer son nom. Non pas que Jean-Baptiste fût plus beau ou plus élégant que Jean-Christophe, mais ce n'était tout simplement pas son prénom, et cette simple petite vexation posthume suffit à mon bonheur. Se fût-il appelé Simon, que je l'aurais appelé Pierre. Mmh. Voilà, une petite citation, oui. Un petit truc biblique.
Je pense qu'il peut y avoir une thèse sur le sujet.
Et voilà.
Vous voulez encore lire un extrait ou...
Moi, j'en ai fini avec la vérité.
Eh ben... Moi, j'ai une question très simple. Quand vous avez écrit « Faire l'amour », vous saviez déjà qu'il y aurait une suite ou c'est venu plus tard?
Alors, la réponse sera du tac au tac. Quand j'ai commencé « Faire l'amour », il est dit très, très vite que Marie pleure parce que son père est mort. Mmh. Et j'avais l'idée de faire une scène à l'île d'Elbe avec l'enterrement du père de Marie. Mmh. Le livre « Faire l'amour » a eu son équilibre propre. Et finalement, la scène de l'enterrement du père n'a pas été écrite. Et donc, ce désir que j'avais d'écrire cette scène de l'enterrement du père de Marie Lidl, il est resté, je l'avais en réserve. Voilà. Et après, à peu près à ce moment-là, j'ai fait un séjour en Chine. Mmh. Il y a une autre idée qui m'est venue. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre les mêmes personnages? Et donc, ça a été fortuit. Et à partir du moment où je l'ai fait, je me suis rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir, parce que à la fois, je repars à chaque fois sur un nouveau roman, comme si chaque roman pouvait être lu indépendamment, mais en même temps, c'est très intéressant que chacun, finalement, puisse se répondre et qu'il y ait comme des échos, comme des résonances d'un livre à l'autre. Et c'est intéressant pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur, c'est-à-dire que à 3-4 années d'intervalle, vous allez lire un autre et des choses vont revenir, se répondre, et c'est finalement quelque chose qui apporte beaucoup. Et donc je suis très content d'avoir... Donc c'était pas délibéré, c'était fortuit, mais à partir de... Je me suis rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir et finalement je l'ai revendiqué.
C'est comme un rush.
Ça m'est apparu. C'est...
Ouais, donc c'était pas complètement prémédité.
Non.
Mais donc, comme je l'avais dit avant, donc alors effectivement, à partir de Faire l'amour, il y a cette rupture ou cette évolution dans votre écriture. Et à propos de Faire l'amour, vous avez dit, pour une fois, je raconte une histoire avec de la psychologie. On se demande ce que va devenir cet amour, si le narrateur va jeter ou pas de l'acide à la gueule de quelqu'un. Cette méfiance de la psychologie, je l'ai héritée du nouveau roman, qui était contre la psychologie, parce qu'elle empêchait la forme et faisait oublier le style. Je continue à préférer construire des récits avec uniquement du temps et de la lumière, mais bon, cette fois, j'ai osé la psychologie, et pas du tout au détriment du style, finalement. Ah bien, vous étiez aux éditions Minuit, nouveau roman, Minuit, tout ça, ça devait peser très fort. Est-ce que, je ne sais pas, à un moment donné, pour vous, c'était une espèce de libération, enfin, vous avez le sentiment qu'avant, vous écriviez beaucoup plus dans une idée.
Libération, je ne crois pas. Je dirais liberté. Pas libération, parce que j'étais pas, je ne me suis jamais senti prisonnier de quoi que ce soit. Il s'est trouvé qu'à partir d'une certaine expérience, étant un écrivain, à partir de Faire l'amour, de 40 ans, je me suis dit, je peux tout faire. Enfin, je peux tout utiliser, psychologie, histoire. Enfin, je ne vois pas pourquoi je me fixerais des règles, comme en peinture, on dirait, méfiez-vous de l'orange. Enfin, pourquoi se méfier de l'orange? On peut utiliser l'orange. Ou, pourquoi dire pas de psychologie? Pourquoi dire pas d'adverbe? Pourquoi dire pas de passé simple? Pourquoi, bon, l'adverbe est passé simple, je les ai toujours employés avec plaisir, etc. Mais il y a des sortes de règles comme ça. Ça dépend comment on les emploie, finalement. Donc, c'est de me dire... Ça fait 20 ans que je réfléchis à la question. Je ne dois être entravé par rien. Et que finalement, la psychologie, surtout utilisée comme ça avec parcimonie, peut apporter beaucoup au livre, à un livre. Et que donc, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et que finalement, l'attention que j'ai toujours eue à la forme, et ça c'est le défi, n'empathie pas. C'est-à-dire, je ne me sens pas englué par la psychologie ou complètement dépassé par la psychologie, où la psychologie n'a pas pris du tout l'ascendant sur la forme. Ce sont des romans où la forme reste l'essentiel, mais qui utilisent aussi des éléments psychologiques, parce que je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Donc c'est plus, c'est plus une liberté acquise qu'une délivrance. Enfin, j'ai pas eu à me délivrer de quoi que ce soit.
C'est un plus.
Voilà.
Non, et puis d'autant plus que, bon, on peut parler de psychologie, mais votre narrateur, une espèce de anti-héros du XXIe siècle, enfin, c'est quelqu'un qui livre jamais ses motivations. C'est quelqu'un qui déroute tout le temps, qui n'est jamais là où on l'attend, qui tout d'un coup apparaît dans le champ de vision de Marie, comme, là aussi comme un effet de cinéma, tout d'un coup, paf, il est dans son champ de vision, puis on s'y attend pas. Ça fait des espèces de plans comme ça qui se... Et il se défie, il fuit, il revient, mais il ne veut pas embrasser Marie, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il ne veut plus être avec elle, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, voilà, c'est cette espèce de mystère, de la complexité d'un jeu, ouais, comme ça, très moderne. Enfin, très...
Oui, il y a des éléments de psychologie.
C'est pas Stendhal, quoi.
Il y a des éléments de psychologie, il y a des explications de psychologie, mais il y a aussi des réticences qui restent. Enfin, je veux dire, je n'explique pas tout, et c'est pas non plus. Pour ce qui concerne le narrateur, tout ce qui concerne la psychologie du narrateur reste extrêmement instinctif et lié à moi-même, même si c'est pas de l'autofiction, c'est pas autobiographique, mais en même temps, il y a un lien très très fort et très étroit avec moi-même. Donc, il y a, c'est toujours beaucoup plus instinctif que délibéré. Je ne vais pas dire qu'il ne veut pas embrasser pour telle ou telle raison, je vais sentir qu'il ne veut pas embrasser. Je vais ressentir. Donc ça sera toujours instinctif. Et ça, finalement, c'est une chance, parce que déjà que je réfléchis beaucoup, heureusement que je laisse la place à des choses instinctives qui m'échappent. Parce que sinon, j'expliquerais tout, on dirait, mais c'est fatigant.
Ouais, mais justement, à ce propos-là, effectivement, ces petites parts un peu autobiographiques qu'on pourrait chercher, elles sont justement dans une posture au monde que vous pouvez avoir et que vous dispatchez comme ça dans plusieurs éléments,
ben, si
et dans le narrateur, et dans la transposition, bien sûr.
Enfin, au sujet de la part autobiographique, comme je disais, il y a tout ce qui concerne le narrateur, où c'est totalement... instinctif et ça provient de moi, mais c'est dans les derniers livres, et en particulier dans La Vérité sur Marie, il y a quelque chose de nouveau où je m'exprime aussi à travers Marie. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'il n'y avait jamais de personnage féminin.
Développé.
Pardon ?
Développé.
Oui, c'est-à-dire que les personnages féminins étaient toujours dans des compagnes du narrateur. Or là, dans La vérité sur Marie, le narrateur est absent pendant un tiers du livre, il n'y a plus que Marie. Et donc, il n'y a plus que Marie, moi comme auteur, du coup, je deviens très Marie, puisque où suis-je ? Enfin, si ce n'est... Alors on me dit le cheval aussi, bon d'accord, un peu le cheval, mais bon, il me reste que Marie ou le cheval, et Jean-Christophe Degé, bon en tout cas, mais là je me mets dans... Je suis dans la position de l'écrivain qui écrit à la troisième personne, ce qui m'était jamais arrivé, et j'ai mis le temps, et je dirais presque aussi, on peut lire La vérité sur Marie comme une longue recherche pour finalement essayer d'écrire à la troisième personne. Me défaire de ce narrateur qui finalement disparaît longuement dans La vérité sur Marie, et donc pour écrire des longs passages à la troisième personne, où c'est aussi finalement, j'ai commencé à le comprendre, l'auteur, enfin je le savais, mais je l'ai éprouvé, que même quand on écrit à la troisième personne, l'auteur est très présent dans chacun de ses mots.
Mais pour reprendre vos premiers narrateurs, ils ont une caractéristique, ils adorent s'enfermer dans des lieux clos, se soustraire au monde, ils aiment bien s'enfermer dans des cabines téléphoniques ou recroqueviller au bas d'un bar pour téléphoner à Edmondson dans c'est la salle de bain. Bon, la salle de bain elle-même, c'est quoi ? C'est le refuge. Voilà, je m'enferme dans ma baignoire. Dans l'appareil photo, ils s'enferment dans les toilettes. Puis à chaque fois, c'est des moments, je sais pas, comme chez Stendhal, en fait, ce moment clos, dans ce lieu clos, dans lequel on a l'impression d'arrêter le temps. Faut le narrateur essaie en se concentrant sur une seule pensée et en oubliant tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour de lui. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'on retrouve ça dans le texte que vous avez écrit à Jérôme Lindon. Il y a exactement une scène comme ça. Je lis le texte. Je n'ai parlé à Jérôme Lindon que le lendemain, depuis la petite... Donc, il venait d'avoir un appel, comme quoi le livre intéressait Jérôme. Je n'ai parlé à Jérôme Lindon que le lendemain, depuis la petite cabine téléphonique de la poste d'Herbalunga, on dit comme ça. Je me souviens parfaitement des premiers mots de cette conversation, moi recroquevillée dans la cabine vitrée à l'intérieur de la poste, la tête baissée, une main sous le récepteur pour ne pas en perdre une miette, et lui me demandant d'entrer si j'avais déjà signé un contrat avec un éditeur. Non, le manuscrit de la salle de bain avait été refusé par toutes les maisons d'édition à qui je l'avais proposé. Il était resté en souffrance aux éditions de minuit dans le bureau d'Alain Robbe-Grillet, qui enseignait alors aux États-Unis. Jérôme Lindon ne l'ayant découvert que par hasard, un jour qu'il vaquait dans l'immeuble, un arrosoir à la main, qui sait, comme il m'est arrivé de le voir par la suite, il aurait très bien pu faire sienne cette phrase de Beckett, dont l'expulsé ou dans Molloy, il n'y a que moi qui comprenne quelque chose aux tomates dans cette maison. C'est très joli. Enfin, voilà, c'est des scènes que vous avez décrites et vous êtes exactement comme vos narrateurs recroquevillés, suspendus à un fil de votre destin qui va changer toute votre vie d'écrivain.
Oui, et puis en l'occurrence, là, je parle de moi. Je me décris moi. C'est pas un personnage,
non.
Et c'est traité comme un personnage. Enfin, on dirait un personnage. C'est, en réalité, dans la si je voulais restituer la vérité historique, ça c'est très faux.
Vous étiez debout.
J'étais debout, très fier, entouré de jeunes filles qui disaient alors un chéquier à la main.
Ah oui, c'était comme ça.
Ouais.
Ah ouais.
La Porsche, le moteur, j'avais pas coupé le moteur de la Porsche. Enfin,
d'accord. Là, ça avait une autre gueule. Hein.
Ah, oui. Mais finalement, la vérité historique a du bon.
Enfin, ce passage, c'est agréable à lire pour tous ceux qui ont passé des années à trouver un éditeur.
Ah, oui.
Ça fait toujours du bien.
Non, il y a aussi, à propos de cela, le fait que Jérôme Lindon a toujours publié, finalement, des auteurs qui ne trouvaient pas leur place dans le paysage habituel et qui ont fini évidemment par être mondialement reconnus, enfin, que ce soit Beckett ou même Robbe-Grillet, la façon dont il a accueilli les auteurs du nouveau roman qui qui étaient publiés, mais pas nécessairement appréciés, comme Duras ou comme Claude Simon. Et c'est vrai que Jérôme Lanon était particulièrement heureux d'avoir découvert le manuscrit de la salle de bain, enfin, surtout une fois que ça a été le succès que ça a été, parce que c'était la première fois qu'un premier roman chez Minuit a eu vraiment beaucoup de succès. Pour lui, c'était très important de montrer que 20 ou 30 ans après, il pouvait encore découvrir des jeunes auteurs que ses confrères n'avaient pas découverts, alors que je l'envoyais à tout le monde, le manuscrit. Enfin, Gallimard, Le Seuil, Grasset l'avaient, et ils m'ont dit non, c'est pas, ça ne rentre pas dans la collection. Enfin, bon, tout ça. Et lui, Jérôme Lindon, s'est dit, c'est moi qui l'ai trouvé, et je dois dire que c'est lui qui en a fait un succès. Parce que le livre n'aurait pas eu ce succès, enfin, le succès qu'il a eu, s'il n'avait pas été adoubé d'une certaine façon par Jérôme Lindon, l'éditeur du nouveau roman, avec ce type de livre-là. C'est vrai que ça, le livre, il est ce qu'il est, mais en même temps, il y a quand même une grande part symbolique. Il faut que le livre soit reconnu et entre dans des circuits de reconnaissance. Les journalistes avaient plus l'œil pour le lire s'il était publié aux éditions de Minuit que s'ils étaient à compte d'auteur le même manuscrit. Hein.
Bon, il y a une autre thématique qui est quand même essentielle dans vos livres. Déjà, dans les premiers, c'est nouveau au niveau du narrateur, de ses réflexions, de sa mélancolie face au temps qui passe et comment s'immobiliser dans une pensée et nier et le monde et le temps. Mais à partir de Faire l'amour, la mort rentre dans le roman, dans sa matérialité. D'abord par la mort du père de Marie. Et dans La vérité sur Marie, on a vraiment la mort qui est toujours intimement liée à l'amour et au sexe. Enfin, et la mort à la fois sépare, mais finalement, c'est elle qui finalement réunira le narrateur et Marie. Enfin, on a vraiment un peu Eros et Thanatos bien décliné et bien...
Ça tourne tout à fait, mais finalement, même depuis la salle de bain, même s'il y a des choses qui paraissent saugrenues, j'ai l'impression que j'essayais toujours d'aller vers l'essentiel. Et alors, pour les trois derniers, c'est très recentré sur des choses fondamentales et sur des choses qui concernent tout le monde, le sexe et la mort. Ça concerne tout le monde de façon intime, et même peut-être la chose qui nous concerne le plus intimement, le sexe et l'amour. Et si on ajoute à ça, comme dans les trois derniers livres, les saisons, si on veut, il y a des sous-titres de type de saison. Si on ajoute à ça les quatre éléments, puisque fuir se termine dans la mer, la vérité sur Marie dans le feu. Finalement, c'est des choses essentielles. Et je crois que ça a toujours été une de mes préoccupations, même si, évidemment, c'est pas exprimé comme tel, c'est pas aussi explicite. Mais finalement, de façon sous-jacente, il n'est question que des choses essentielles.
Toi, je disais qu'avant, c'était plus mental, et là, ça s'extériorise, ou ça se matérialise.
Oui. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus explicite en ce qui concerne le sexe et la mort dans les trois derniers. Ça, c'est très, très clair. La question du temps, je pense qu'elle était
bien présente
dès le début. Et il y a d'ailleurs un passage de la salle de bain qui est vraiment une prise de conscience du passage du temps qui revient... Donc 20 ans plus tard, dans Fuir, c'est un passage où on met les deux en relation. C'est la même sensation de l'homme qui voyage, enfin de quelqu'un qui voyage, qui se sent immobile dans le voyage et qui sent que malgré son immobilité, il se déplace dans l'espace et dans le temps. Et tout l'aspect corrosif du temps qui passe, enfin, c'est le même type de réflexion à 20 ans d'intervalle est fait dans la salle de bain et dans Fuir.
Mais dans la fin de l'appareil de photo, je regardais le jour se lever et songeais simplement au présent, à l'instant présent, tâchant de fixer encore une fois sa fugitive grâce, comme on immobiliserait l'extrémité d'une aiguille dans le corps d'un papillon vivant. Vivant.
Oui,
tout à l'heure.
Le temps, le sexe, la mort.
Mais dans la vérité de Marie, ça commence déjà au début, où le narrateur se rend compte que Marie et lui ont fait l'amour en même temps, mais pas ensemble. Mais lui avec une autre Marie, il y a un dédoublement.
Oui, mais là, on complique. Mais disons, mais c'est vrai, il y a tout ça, mais là, ça complique. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a tous ces éléments-là, si on résume tout, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur les éléments essentiels. Après, il y a évidemment des tas de choses qui viennent et qui n'obéissent pas à cette simplicité de lecture. Il y a des choses qui parfois n'entrent même pas dans la grille, mais heureusement.
Mais c'est quand même sur le cadavre de Jean-Christophe qui se retrouve. Il n'y aurait pas eu le cadavre.
Le cadavre symbolique.
Pourquoi symbolique?
Il n'est plus là, il ne se retrouve pas sur le cadavre.
Non, je sais. Le cadavre est déjà parti.
Oui, alors c'est Héros et Thanatos à fond la caisse.
C'est gothique.
C'est gothique. Sur le cadavre, ça, on ne l'avait jamais fait.
Enfin, toute la pièce est encore empreinte de lui. Et encore ses chaussures, d'ailleurs.
Oui, il y a... Mais ces chaussures, justement, là, il y a une image très symbolique, très opéra, en fait, où de sa présence ne subsistait que ses chaussures.
Ouais, ça,
un peu une
terrible.
Image d'opéra où il a été foudroyé. Mais il a été foudroyé au sens figuré et au sens propre par une crise cardiaque. Il y a la foudre. Et la foudre lui est tombée dessus. Il a disparu. Il reste ses chaussures et presque à l'opéra, il y aurait de la fumée qui sortirait de ses chaussures.
Mais est-ce qu'on peut lire la trilogie comme une longue tentative d'empêcher le temps de tuer l'amour?
Alors, première remarque, ces trilogies momentanées, enfin, je veux dire, il n'est pas exclu que s'il y a un quatrième livre, le mot trilogie soit impropre. C'est pas exclu qu'il y en ait un quatrième, voire un cinquième, voire un sixième, je ne sais pas. Je pense que très certainement, j'intègre le temps de façon très intéressante en travaillant comme ça avec des livres qui se complètent. C'est-à-dire que le rapport au temps réel, du temps d'écriture, c'est-à-dire quand j'ai commencé en 2000 faire l'amour et il y a des scènes.
L'amour depuis 2000.
Je suis commencé en 2000.
Oh, c'est dingue.
J'ai jamais été très précoce. La salle de bain en 85. Bon. Donc, j'ai commencé en 2000 et il y a des scènes qui ont été écrites en 2007, La vérité sur Marie, qui se passent dans la même chambre d'hôtel. Donc là, c'est vrai que pour moi, je fais intervenir le temps réel. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans qui se sont écoulés. Et je termine une phrase presque, métaphoriquement, je termine une phrase, ou en tout cas, c'est le même lit que je décris, que j'ai pu décrire en 2000 et que je continue à décrire en 2007. Donc là, pour moi, c'est très intéressant que le temps réel entre, si on veut, dans la construction.
Dans le temps de la narration.
Donc ça, c'est certain. Et comme en plus de ça, il s'agit d'une rupture amoureuse, mais qu'en même temps, ils sont toujours ensemble, et que là, à la fin de La vérité sur Marie, ils font l'amour.
Grâce à l'incendie.
Oui, mais ils font l'amour. Donc il y a 3 tomes, donc entre 2000 et 2000, paru en 2009, ils rompent, ils sont toujours en train de rompre, et ce qu'ils font à la fin de celui-là, c'est faire l'amour. Donc il y a quand même une dialectique extrêmement entre cette rupture et cette impossibilité de rupture. Il y a une double impossibilité, à la fois l'impossibilité de se séparer et l'impossibilité de rester ensemble. Il y a cette dialectique, ce surplace, et qui, pour moi, est très intéressant, avec le vrai temps qui m'englobe, moi dans l'écriture, où ça fait 10 ans que je suis là-dessus, et où je continue, et où je suis toujours, à la fois dans cette façon d'arrêter le temps, et en même temps de le sentir passer.
Et vos personnages vieillissent.
Oui, mais pas que.
Non, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le cycle soit clos, vu qu'on a commencé avec faire l'amour, ou c'est la dernière fois, c'est fini, puis on finit par le fait qu'ils font enfin l'amour. Donc on se dit, voilà, la boucle est bouclée. Et... Mais non.
Inch'Allah.
Je sais pas, vous avez commencé un manuscrit ?
On verra.
Bon, comme on est en plein mondial, je me dis qu'on ne peut pas ne pas parler de foot.
D'ailleurs, l'écran géant est installé.
Ah, parce que vous êtes...
un résumé de la journée.
Vous êtes un grand amateur de foot. C'est vrai ?
Oui, oui.
Vous en parlez très bien, d'ailleurs, dans la salle de bain. On peut lire un passage. Hein.
Oui, oui.
Page 57. C'est vous qui le lisez ?
Comme vous voulez.
On aimerait qu'on nous parle de foot comme ça tout le temps. C'est magnifique.
L'Inter de Milan affrontait les Glasgow Rangers en huitième de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. La rencontre avait lieu en Écosse. Pour préserver leur chance au match retour, les Italiens fermèrent le jeu, se cantonnèrent en défense. La partie demeurait morne. Quelques belles actions malgré tout m'émurent. Il m'arriva de me pencher brusquement en avant, une main au sol, pour me rapprocher de l'écran. À la 25e minute de la seconde mi-temps, le barman vint me rejoindre devant la télévision. Avant de prendre place, il alla machinalement bouger l'antenne, régler le contraste. Le dernier quart d'heure de la rencontre fut animé. Les Écossais procédaient par passes longues, n'hésitaient pas à tirer, tâchant d'ouvrir la marque dans les dernières minutes. Lorsqu'un tir des 30 mètres alla s'écraser sur le poteau, je retins mon souffle et échangeai un regard significatif avec le barman. J'allumai une cigarette et me retournai car je sentais une présence dans mon dos. Debout derrière nous, sur le pas de la porte, se tenait le réceptionniste. Il y a le match retour aussi un peu plus loin. Tant qu'on y est, je pense que vous voulez savoir le score.
Ben oui.
Un soir, je demandai à Edmondson de dîner un peu plus tôt qu'à l'ordinaire, car à 20h30, en match retour des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, l'Inter de Milan recevait les Glasgow Rangers. 15 jours plus tôt, en Écosse, les deux équipes avaient fait match nul. Après le repas, Edmondson m'accompagna dans le salon de l'hôtel où se trouvait le poste de télévision. Le match commença tout de suite. Les Écossais, groupés en défense, pratiquaient un jeu heurté, taclaient pour nuire. J'étais assis à moins d'un mètre de l'écran. Edmondson suivait la rencontre derrière moi, à moitié allongé sur un canapé. Elle trouvait que je ressemblais un peu à un des joueurs. Je protestais. C'était un grand rouquin avec des taches de rousseur. « Oui, un peu », disait-elle, dans la façon de courir. « Chut !» disais-je. Parce qu'Edmondson connaissait ma façon de courir. À la mi-temps, l'Inter de Milan menait déjà 2-0. Nous remontâmes dans la chambre avant la fin du match.
Et vous avez assisté à la finale de 2006.
Voilà. J'ai assisté, si vous voulez, à la finale de 2002 et de 2006, pour être précis. Donc il n'y a qu'en 2010, à moins qu'il me reste le temps de vous abandonner pour aller en Afrique du Sud. Mais non, non, c'est vrai que j'aime le football. Et il se trouve que mes livres sont traduits au Japon. La Coupe du Monde avait lieu en 2002 au Japon. Et donc j'avais décidé de grouper des conférences dans les universités et de suivre des matchs. Et donc j'ai suivi toute la Coupe du Monde au Japon en 2002, je suis resté un mois. Et en 2006, à Berlin, je suis resté une quinzaine de jours, où c'était beaucoup plus difficile d'avoir des billets. Mais enfin, finalement, j'ai réussi à trouver une place. Et j'étais dans le stade de Berlin le soir de la finale. Et une des choses très, très frappantes, évidemment, c'est que dans le stade, je n'ai pas vu le coup de tête de Zidane. Et pour une raison très simple, c'est que le match se poursuivait. Et donc les gens regardaient le match, ne regardaient pas particulièrement Zidane. Et que les gens qui étaient sur place n'ont pas vu le coup de tête. Bon, c'était une sorte de paradoxe qui m'a un peu titillé. Et puis d'autres, il y a eu un certain nombre d'autres réflexions. Et donc finalement, j'ai écrit cet essai.
La mélancolie de Zidane.
La mélancolie de Zidane.
Parce que j'ai pas acheté encore le livre, je suis en train de réfléchir. Est-ce que dans le livre, peut-être vous expliquez qu'il s'est manifesté de cette façon parce que c'est pas une personne qui s'exprime. Je vois à la télé, il parle pas beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui est d'habitude très serein, qui ne parle pas. Donc il a agi de cette manière pour, je pense, réfuter ce que la personne lui avait dit, et puisque cette analyse-là, que vous avez, parce que moi, je ne le connais pas, le peu que je le vois, c'est quelqu'un qui s'exprime très peu.
Mais vous avez raison, en fait, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup comme écrivain, parce que, justement, il s'exprime plus par le corps, par le geste, par un côté visuel, que par la parole. Et que finalement, moi, dans mes livres, il n'y a presque jamais de dialogue, ou très peu de dialogue, c'est des éléments de dialogue. Mais il y a toujours un regard. Et donc, finalement, ce que je fais, finalement, c'est lire le monde.
Le corps.
Voilà. Et donc, finalement, de regarder Zidane, et ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il a dit, et c'est pas ce que l'autre lui a dit, je m'en fous ce que l'autre lui a dit, l'autre, il n'apparaît même pas dans le livre. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de l'observer et de...
Le langage du corps.
Voilà, si vous voulez, à partir de son corps, de trouver des choses presque psychologiques, finalement, ou psychanalytiques, d'ailleurs, dans le livre. Mais où je reste extérieur, finalement, où je ne m'attarde pas à l'apparence initiale de la parole et de l'échange des propos.
Non, mais c'est un texte où vous dites que ce geste n'a pas eu lieu parce qu'on ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu les caméras.
Oui, c'est un des paradoxes que je développe à la fin. Je ne dis pas que le geste n'a pas eu lieu, mais il y a une sorte de paradoxe.
Il n'a pas eu lieu parce qu'on ne l'a pas vu.
Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si... Enfin bon, il y a... Il n'a eu lieu que dans l'esprit de Zidane, en fait. Donc, je fais aussi une sorte de métaphore avec ce que moi je connais, qui est quelque chose où la réalité, elle arrive, mais essentiellement, elle se passe dans mon esprit. L'essentiel de la réalité se passe dans mon esprit. Mais je ne nie pas qu'il y a une réalité en dehors de mon esprit. Mon solipsisme est très modéré.
Je me demande, je ne sais pas comment vous voyez, parce que j'ai entendu la semaine dernière un écrivain qui a écrit sur Zidane, un autre écrivain disait, mais c'est quand même dur comme il a analysé la réaction de Zidane. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vu comme vraiment un geste terrible comme l'autre l'a vu. Alors, il y a des points de vue différents entre les journalistes.
Oui, en fait, pour vous dire les choses, je m'en fous un peu de Zidane. Moi, j'ai fait de la littérature. Finalement, ce qui m'importait, c'est d'être juste dans la littérature. Et finalement, Zidane est complètement un prétexte pour moi. C'est-à-dire, ce que pense réellement Zidane ne m'importe pas. Et l'écrivain, finalement... réinvente des choses. Et c'est ça qui m'intéressait. Et dans ce petit texte, à mon avis, je n'ai fait que de la littérature, et mon idée, c'était justement de proposer un geste littéraire au geste de Zidane. Zidane a fait un geste extraordinaire, parce que c'est vrai que le geste qu'il a fait, ce coup de tête, le monde entier l'a vu, l'a commenté, l'a analysé. Ça a été un geste absolument incroyable. C'est peu de choses. Dieu, comment ça a été commenté ? Bon, c'est un geste incroyable qui a été fait dans la réalité. Moi, j'essaye d'opposer à ça un geste de littérature. Alors, il y a des éléments. Bon, comme on vous disait, une des choses qui ne m'intéressait pas du tout, c'était l'adversaire. Mm-hmm. Par exemple, je ne nomme jamais l'adversaire. Je sais comment il s'appelle, mais dans le texte, et ça, en tant qu'écrivain, je ne le nomme jamais. Et de ne pas nommer en littérature, ça a évidemment une très grande force. Mm-hmm. Ça veut dire que je le nie.
Oui, vous le niez.
Il est hors.
Il n'existe.
Voilà, il n'est pas dans le cadre. C'est comme au cinéma, il y a des figurants. Figurants, ils demandent comment ce qu'ils doivent faire. Bon, c'est pas grave, ils sont pas dans le cadre. Donc, l'adversaire n'est pas dans le cadre.
Oui, c'est vrai. C'est pas seulement les autres écrivains. Ils l'ont sculpté complètement de leurs écrits. Quoi. Mais ils disent que ce geste restera longtemps.
Ah, ça, c'est sûr.
Mais vous l'avez un peu haussé au rang de héros tragiques dans ce livre.
Non, je ne crois pas. J'ai pas voulu justement en rajouter, j'ai pas voulu en faire Je crois que je suis resté un peu dans mes cordes habituelles. Je n'ai pas cherché tellement à mythifier. Il y a eu un livre à la même époque de quelqu'un qui a écrit, justement, qui a comparé à la mythologie. Et sans doute, il y a des tas d'éléments très pertinents. Mais franchement, ce n'était pas du tout mon idée. Au contraire, je voulais plus rentrer dans quelque chose de très quotidien. En essayant d'expliquer le geste parce qu'il avait mal à l'épaule et parce qu'il avait envie de se doucher et rentrer dans le vestiaire plutôt que qu'une sorte de mythe. Donc c'est, je me suis toujours servi des éléments que je connais. Et une des métaphores que je fais, c'est une métaphore avec le personnage de la salle de bain. C'est-à-dire en fait que c'est un geste brusque qui survient après une sorte de crise qui a mis très longtemps à infuser, à mariner, et puis le geste brusque va surgir. Et je fais une comparaison avec le personnage de la salle de bain. Donc je ne cherche pas tellement à mythifier.
Et aujourd'hui, vous n'écririez pas La solitude de Domenech?
Alors, ce à quoi j'avais éventuellement pensé, c'était la vulgarité d'Henri, après la main d'Henri. Parce qu'il y a quand même quelque chose sur une vulgarité incroyable de ce geste de la main, et quand même une vulgarité qui concerne toute la France. C'est-à-dire, le chef de l'État français actuel est d'une vulgarité incroyable. Et tout ceci, je trouve, est très lié, et qu'il y a une sorte, je dirais... Mais je ne l'ai pas fait, donc ça reste entre nous. Mais il me semble qu'il y a il y a une sorte de vulgarité de la France actuelle que l'équipe de football française reflète parfaitement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser?
Je ne sais pas.
Oui.
D'accord qu'il a eu une erreur.
Oui.
Pour revenir à la vérité sur Marie, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait un cheval.
Oui. Ah, je me suis mal exprimé si je dis qu'il fallait qu'il y ait un cheval. Il ne fallait pas qu'il y ait un cheval, mais une de mes premières idées initiales, qui est une sorte de... Parfois, un livre arrive comme ça avec une image. Et en l'occurrence, pour La vérité sur Marie, il y a une image initiale qui est un pur sang qui vomit dans les soutes d'un Boeing 747 en vol. Donc je me suis dit, ça c'est une image très forte qui m'est apparue et que j'aimerais bien traiter. Donc j'aimerais bien que dans mon livre, au centre de mon livre, un pur sang vomisse dans les soutes d'un 747 en vol. Donc après, je me dis, si je veux qu'il y ait cette image-là dans mon livre, il faut qu'il y ait un cheval. Ça c'est clair. Bon, je continue un tout petit peu là-dessus. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à acheter un livre de vétérinaire ou de propriétaire de chevaux. Et très vite, je me suis aperçu que les chevaux ne vomissaient pas. Donc physiologiquement, les chevaux ne vomissent pas. Je me suis dit, c'est quand même assez mal barré, mon truc. J'ai une image et c'est pas possible. Et après, justement, je me suis dit, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Dans la réalité, ils ne vomissent pas. Mais dans mon livre, pourquoi ils ne vomiraient pas? Et là, je pense que finalement, à partir d'une sorte d'obstacle de la réalité, je l'ai transcendé, cet obstacle. Et le faisant vomir, avec finalement toutes les scrupules que j'ai, tous les égards, toute cette volonté de créer un effet de réel tout autour pour faire accepter cette image du cheval qui vomit, finalement, ça m'a rendu service. Qu'en réalité, ils ne peuvent pas vomir, c'est encore mieux. Au départ, je me suis dit « zut !» Et là, finalement... Je me dis, bah, tant mieux, ça m'a aidé finalement, ça a été un obstacle que j'ai dû franchir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, moi je voulais savoir si vous aviez déjà une idée du fil de l'histoire avant de l'écrire, ou alors si ça venait au fur et à mesure que vous écriviez, ou un peu par puzzle.
Donc je réponds plutôt pour les derniers livres. C'est plus par image comme ça, des choses qui après se construisent. C'est-à-dire que La vérité sur Marie, c'est deux images. C'est la première phrase, si vous voulez, que j'avais, c'est-à-dire faire l'amour au même moment, mais pas ensemble. Donc c'est plus tard, en repensant aux heures sombres de cette nuit caniculaire, je me suis rendu compte que nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais pas ensemble. Donc ça, c'est une image très porteuse d'un point de vue romanesque, c'est que le couple, ça fait plus deux, ça fait quatre déjà, ça fait quatre. Donc qui sont les deux autres? Donc ça, c'est porteur. Et le point de départ du livre, c'est ça, c'est cette première phrase et le cheval qui vomit. Et donc, évidemment, j'ai eu l'idée de relier un des deux avec le cheval et donc de faire de Jean-Christophe Degé un propriétaire. Mais par exemple, où je dis que finalement, ça n'a pas tellement d'importance, enfin, tout n'arrive pas comme ça, c'est que j'ai beaucoup hésité pour faire de ce cheval soit un cheval de course, soit un cheval d'obstacle, par exemple. Et ça aurait très bien pu être un concours hippique plutôt qu'une course, et ça aurait pu très bien être à Hong Kong plutôt qu'à Tokyo. C'est-à-dire que, je dis ça aurait très bien pu être, c'est que j'avais envisagé un moment que Jean-Christophe Degé était propriétaire d'un cheval d'obstacle, donc il faisait un concours hippique à Hong Kong. Donc voilà, ça aurait changé évidemment certaines choses. Et lorsque je me suis dit, mais non, c'est mieux Tokyo, ça m'a permis de le relier à Faire l'amour. Parce qu'il y a une grande scène qui dans Faire l'amour, où le narrateur et Marie se quittent à Tokyo, donc ça crée le lien, et Jean-Christophe Degé pouvait déjà être présent. Donc ça, c'est des choses intérieures, qui est une sorte de combinatoire, pour moi, sur lequel je mets beaucoup de temps avant de... Donc j'hésite, je tâtonne, et puis parfois des choses s'imposent, et parfois justement, et je pense qu'elles ont encore plus de force lorsqu'il y a des résonances ou des échos entre les différents livres.
Non, parce que ce qui est fabuleux, c'est que ça vous donne la possibilité de modifier le passé, ou de le compléter.
Oui, le plus de le compléter.
Vous l'avez déjà écrit.
Oui.
Écrit,
mais à la limite, je pourrais le modifier, je pourrais le nier. C'est pas exclu. Mais là, on est dans une grande ambiguïté si j'écris quelque chose de contradictoire.
Mais tout d'un coup, mais pourquoi pas un autre regard, un autre point de vue, et paf, ça renverse complètement la perspective.
Absolument. C'est très intéressant.
Oui, ça donne des possibilités infinies.
Oui.
D'un point de vue narratif.
Mais même, bon, je manque un peu de personnages. Mais par exemple, c'est vrai que lorsqu'on a 8 à 10 personnages, on a des tas de possibilités extraordinaires. Bon, moi, c'est vrai que la surprise est toujours la même, c'est toujours le même qui réapparaît, j'en ai 3 ou 4 personnages. Donc c'est vrai que ça, de ce point de vue-là, je suis un peu limité.
Ouais. Non, mais vous parlez d'image romanesque, d'image mentale. Et des fois, j'ai l'impression dans vos descriptions que c'est plus que ça. Je me demandais si vous travaillez avec des souvenirs, avec des photos.
Les deux.
Ouais.
Les deux et plus. Des souvenirs, des photos, des fantasmes, de la documentation, donc des mots. Parce que parfois, c'est bien d'avoir une photo, mais c'est encore mieux d'avoir les mots qui correspondent. C'est-à-dire que parfois, on a la photo, mais on n'a pas les mots. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des mots. Lorsqu'on a quelque chose de trop précis, avec un vocabulaire de tous les détails, en architecture, il y a des possibilités infinies, en botanique, tout ça, il faut faire attention, parce que si on met trop de détails, donc il faut garder du flou aussi. C'est difficile de... Comment garder certains éléments flous? Et c'est un des dosages les plus compliqués à faire, ça, parce que sinon, on pourrait se dire, c'est facile, si on ajoute que de la précision, bon... On change toujours, on rajoute, mais ça perd. Donc c'est vrai que quand on rêve, il y a des effets de flou. On n'est pas toujours totalement précis.
Et puis surtout maintenant avec Google, tous ces gens qui font le copier-coller.
Oui, il y a une...
Comme les Little.
Oui, mais enfin cela dit, au 19e siècle aussi, il y avait des possibilités. On voit les auteurs du 19e siècle, ils ont un vocabulaire incroyable. Ils n'avaient pas Google, mais ils avaient de la documentation aussi.
C'est l'encyclopédie.
Ouais. Oui, mais ils allaient dans les bibliothèques, il y a des... À rebours, il y a un vocabulaire. Ouais.
Vous avez d'autres questions? Parce que tout le monde, je vous suggérerais qu'on prenne encore un verre et qu'on discute de façon plus conviviale.
Merci.